cœur à venir partager avec vous ce que j'appelle un vin nouveau du Seigneur. Ce vin nouveau qu'il nous a enseigné depuis 75, qu'il nous a fait expérimenter et qui a jailli dans notre vécu aux fondations Pax Vobis et que ton règne vienne, comme quelque chose de vraiment révolutionnaire. Et tout cela a commencé, mes chers amis, par une révélation que, fort gratuitement, comme il le fait toujours, le Seigneur a mis dans le cœur de la co-fondatrice, celle qui a donné son oui au Seigneur en même temps que moi au début des fondations, Isabelle Gauvin. Nous étions devant le Saint-Sacrement et en 75, et tout à coup, avec les grâces, les dons, les charismes qu'elle possédait, elle a dit, le Père indique qu'il veut donner à son Église un nouveau renouveau spécial à partir de 1984, 85, 86, etc., en retissant le tissu communautaire du peuple de Dieu, en montrant que ce qui manque à notre Église aujourd'hui, c'est que nous formons des communautés familiales, conjugales, communautés paroissiales, diocésaines, ecclésiales. Nous avons des grands rassemblements, mais trop souvent, nous sommes côte à côte, ignorant absolument le cheminement spirituel de nos voisins. Et au même moment où on acclame et proclame la communauté dans des rassemblements, on sent quand même une étrangéité par rapport l'un à l'autre. Et le Père annonce qu'il veut lancer à travers tout l'univers, en mettant ça directement dans le cœur des individus, des chrétiens et des autres, le goût de se retrouver en petites cellules communautaires. Et quand les petites cellules vont se reformer, se régénérer, ensemble, elles vont refaire le tissu du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, devenant plus communautaire entre ses membres, va pouvoir s'exprimer davantage en Église. Et un leadership spirituel va partir de la base et va monter de bas en haut et demander à l'Église, disons, institution qu'on a édifiée avec les siècles, les correctifs nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut retrancher? J'ai écouté ça, moi, et on a demandé des confirmations, l'authenticité, on a vu si cette révélation privée était vraiment fondée, on a eu toutes les preuves dans les 24 heures d'une façon non équivoque. Mais cette personne qui était vraiment en contact avec le Seigneur dans sa spontanéité de petit enfant, que moi je n'avais pas encore acquis, elle se retourne et elle dit, Père, qu'est-ce que ça va être, ça? Nous mettrais-tu dans ton secret? Nous donnerais-tu un peu les éléments? Comment tu vas t'y prendre en 84, 85 et la fin du siècle pour refaire le tissu communautaire du peuple de Dieu? Nous sommes tes enfants, nous t'adorons, nous adorons Jésus, nous sommes en ta présence à la journée longue. On aimerait ça, si tu nous donnais tes confidences, pouvoir mettre ça en pratique nous-mêmes. Et c'est comme ça que toute une aventure s'est établie. Et on a commencé, et ça a pris une année, le Seigneur a donné les éléments constitutifs du vrai de vrai communautaire chrétien. Nous les avons accueillis, nous les avons mis en pratique, nous avons fait un apprentissage de ça pour découvrir tout à coup qu'en devenant de vrais communautaires, on venait d'établir une immense antenne parabolique au-dessus des fondations, et beaucoup de choses ont été, après ça, perçues, accueillies, vécues, grâce aux communautaires qui avaient fait un changement dans nos vies. Et pourtant, nous étions tous des gens, et moi, naturellement, toute ma vie, j'ai aimé travailler en équipe, j'ai toujours été soucieux de la collaboration, du partage, de l'écoute. Mais je venais de découvrir une petite bombe atomique spirituelle et j'en étais heureux. Avant de vous donner les ingrédients qu'il nous a enseignés, je pense que ça ne fait pas de trop de nous demander encore une fois, et c'est peut-être une redite pour certains d'entre vous, je m'en excuse, pourquoi est-il important qu'un chrétien, une chrétienne, soit communautaire. On sait qu'il faut vivre en communauté, mais c'est bon de récapituler là, les grandes motivations du communautaire. J'en énumère rapidement 6. La première, c'est que Dieu qui nous a créés est lui-même communautaire. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint forment le modèle de la communauté. On ne peut pas imaginer mieux que ça. Trois personnes distinctes, entre lesquelles il y a un tel courant d'amour qu'ils ne forment qu'un Dieu. Un couple peut être en amour, c'est deux personnes, mais ils forment deux êtres. Et il reste deux êtres. Dieu, trois personnes, un seul Dieu, donc une communauté modèle. Alors, comme Dieu nous a créés, sa signature de créateur, elle est une signature de créateur communautaire. Il est communautaire. Jésus qui est venu nous sauver, la signature qu'il met dans notre être par le baptême est une signature de sauveur communautaire. Et l'Esprit-Saint qui nous poursuit toujours pour nous dire « Laissez-vous aimer, aimez-vous les uns les autres. » À chaque fois que l'Esprit-Saint intervient dans nos vies, toutes ses inspirations, toutes ses motions, tous ses conseils, tout son réconfort, tout ça, c'est toujours une signature d'Esprit-Saint communautaire. Alors nous sommes marqués, disons, de trois signes, de trois signatures communautaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper. On a au fond de nous, si on se donne la peine de s'arrêter, si on cesse de se fuir, si on n'est plus des fugitifs, si on s'arrête, on va voir monter en nous ce goût d'être communautaire avec les autres. Deuxième élément, Jésus, quand il est venu nous porter le message au nom du Père et de l'Esprit, et qu'il a fini sa vie publique avant de repartir, il aurait bien pu résumer tout en 3, 4, 5 commandements nouveaux. Parce qu'il avait beaucoup parlé de la prière, il avait beaucoup parlé des disciples, allez, je vous envoie, donc de l'apostolat, il avait parlé de plusieurs choses, mais il nous a laissé un commandement nouveau. Il aurait pu en laisser deux, trois, une douzaine, deux douzaines. Il a résumé toute sa vie en nous disant « Aimez-vous les uns les autres. » C'est à ce signe, au singulier, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc, on a les 10 commandements de Dieu, puis un commandement nouveau qui nous est laissé par Jésus, et c'est un commandement sur le communautaire. Troisièmement, pourquoi l'Église a-t-elle été fondée? Elle a été fondée pour faire du bien, faire des œuvres, ça c'est les fruits qui découlent de l'Église. Mais le constitutif de l'Église, c'est quoi? C'est précisément le rassemblement du peuple qui est en marche, de ce peuple qui a été créé, sauvé, communautaire, à qui on a donné un commandement nouveau communautaire, puis on veut qu'ils se mettent ensemble un peu pour former un corps plus consistant pour ça, et l'Église nous appelle à être communautaire. C'est impensable, une Église qui est une simple juxtaposition de bonnes personnes bien disposées, faisant du bien chacun de leur part. C'est impensable, c'est ça. C'est pas du tout le plan. Quatrième raison, quand on a fini notre stage dans ce qu'on appelle l'Église militante sur la terre, on s'en va dans le deuxième chapitre de l'Église, qui est l'Église triomphante. Certains passeront peut-être par l'ambassade de l'Église souffrante pour nettoyer le système. Mais on s'en va vivre dans l'Église triomphante. Et quelle est l'Église triomphante? La parfaite communauté. La communauté de tous les saints et saintes qui se retrouvent tout à coup en face de cet amour trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit qui jaillit continuellement. L'amour jaillit tout neuf dans le cœur du Père. Il le partage avec Jésus. L'Esprit s'en empare et devient l'Esprit Saint. Et ça jaillit continuellement comme ça. Et c'est cet amour qui, tout à coup, est déversé et offert à tous les élus du ciel que nous sommes. Et quand on reçoit une telle effusion d'amour, il paraît qu'on renaît complètement. Tout notre être n'est plus le même. Il connaît une renaissance extraordinaire. Il tombe en extase. Il n'a jamais été aimé par tant d'amour communautaire. Et cet amour est tellement grand et tout nouveau, pas un amour à répétition, c'est un amour qui vient d'être créé. L'amour de Dieu, il n'est pas le même depuis toujours, il est tout le temps en jaillissement. Au moment où je vous parle, depuis que j'ai commencé à vous parler, l'amour du Père vient de jaillir, l'amour neuf qui n'a jamais existé depuis le début du monde et qui continue à jaillir et qui va continuer à jaillir. Et cet amour va au Fils, puis le Fils est engendré à nouveau, le Fils est renouvelé, et c'est ce jaillissement d'amour qui va s'emparer de nous, qui va nous changer. Et nous allons, dans notre transformation, retourner cet amour dans la gloire à Dieu. Et Dieu va recevoir une gloire qu'il n'a jamais reçue, parce qu'elle est le fruit d'un amour qu'on n'avait jamais reçu. Et ça va être tellement fort que les saints, les saintes, les élus au ciel, on ne pourra pas garder ça pour nous autres. On va se mourir, pour ainsi dire, d'aller voir ce que vivent les autres. Et ce que vivent les autres, ce n'est pas ce qu'on vient de vivre, même si ça vient du même amour. On aura des diapasons différents, des tonalités différentes. Et ça va être un partage communautaire de toute beauté. Et n'entreront pas en paradis, c'est bien de valeur, ceux qui ne se sont pas d'abord habitués à être communautaires. Et le purgatoire, et là, le purgatoire, il paraît qu'il sert à faire du nettoyage à sec de nos péchés, de nos difficultés, mais ce n'est pas surtout ça. Le purgatoire est là, et le Seigneur le décrit fort bien dans son enseignement, surtout depuis quelques années, comme une ambassade, une salle d'attente où on finit l'entraînement qu'on n'a pas fait sur terre. Et pour être capable d'entrer au paradis et accueillir l'amour divin et le partager, c'est indispensable. Et alors tous ceux qui, sur la terre, se sont refusés d'ouvrir, comme je disais à Borin, leur RCA, leur récepteur cœur-amour, de l'ouvrir pour recevoir l'amour de Dieu et de Dieu à travers les autres, vont être obligés de passer par l'ambassade pour faire dérouiller leur système, pour être capable d'accueillir de l'amour. N'entrera pas au paradis quelqu'un qui n'est pas capable de recevoir l'amour. Deuxièmement, qui n'est pas capable de partager les fruits de cet amour. Et c'est dans ce sens-là qu'on a tout intérêt à découvrir ça, à le mettre en pratique de son vivant sur la terre, sinon ça sera de son vivant dans la salle d'attente avant d'être de son vivant éternellement. Mais une cinquième raison, c'est que quand on n'est pas communautaire, je vous le dis bien franchement, on manque le meilleur du christianisme. Le meilleur du christianisme, c'est pas, je dirais, d'aller recevoir les sacrements, même si c'est fondamental et indispensable. Le meilleur du christianisme, c'est pas d'aller à la messe, de pratiquer, de se confesser, de prier, de chanter des louanges. Tout ça est bien. Mais l'essentiel, le meilleur du christianisme, c'est de se sentir aimé par celui qui nous a créés, rachetés et qui nous poursuit de son amour. Tant qu'on n'a pas connu cette béatitude d'être bien aimé, on n'est pas capable d'être bien aimant. Et pour être bien aimé de la tête aux pieds, d'être aimé en plénitude, il faut aller le chercher par celui qui donne la plénitude de l'amour. Et après ça, si on s'alimente là, ça vient alimenter notre amour conjugal, notre amour familial, notre amour paternel, maternel, filial, amical. Et c'est le grand ressourcement des amours humains qui sont imparfaits, mais qui sont ressourcés par la grande source de tout amour, de tous les temps, avec toutes les qualités imaginables, l'amour trinitaire. Et cette valeur que dans le christianisme, souvent on connaît les exercices de piété, on connaît les rites, on connaît les activités de la vie de l'Église. Mais le vrai fruit de tout ça reste encore un inconnu pour plusieurs. Et je reprends ici une parenthèse. Les gens de ma génération, nous avons été éduqués comme ceci. On nous a dit, bien, venez à l'Église. Dans l'Église, vous allez vivre les sacrements. Et ça, c'était le premier étage. Et normalement, ça devait nous conduire au deuxième étage, découvrir Jésus et son évangile, pour arriver au troisième étage, qui est en définitive tomber et découvrir en amour avec le Père. Donc, savoir qu'on a un Père qui nous aime. Notre vie n'est pas complète tant qu'on ne sent pas cet amour divin. Mais le Seigneur dit, beaucoup d'entre vous, vous êtes restés au premier étage. Vous avez connu la vie de l'Église, vous pratiquez encore, vous allez là. Certains ont monté au deuxième étage pour découvrir Jésus et son évangile, et dans divers mouvements de renouveau, on a beaucoup aidé à ce point de vue-là. Mais ils sont trop peu nombreux, mes enfants, qui savent aujourd'hui en Église qu'ils ont un Père qui les aime éperdument et qui sentent cet amour du Père. Bon, il ne suffit pas de savoir que Dieu nous aime, puis que de vouloir que Dieu nous aime. Il faut l'expérimenter. Il faut qu'on le sente. Et Dieu nous a équipés pour ça. Moi, pendant 50 ans, j'ai enseigné que Dieu nous aimait, puis je disais, laissez-vous aimer par Dieu, puis croyez que Dieu vous aime. Mais ce n'est que depuis 10 ans, à travers ça et autre chose, tout à coup, j'ai commencé à ressentir de façon continue l'amour divin. Cette communication sur certaines paisibles, amoureuses, je vous assure que ça transforme une vie. Puis j'étais prêtre depuis 30 ans quand j'ai découvert ça. Et aujourd'hui, je ne ravalerai pas. Je viens de prêcher une retraite aux prêtres, quand j'ai dit ça, leur ressentir l'amour de Dieu. Quelques-uns ont dit, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas sentimental? Est-ce qu'on ne nous a jamais dit ça? J'ai dit non. Habituez-vous à l'entendre, parce que je vais le répéter souvent. On a le droit d'expérimenter l'amour de Dieu. Évidemment, l'amour de Dieu, il se manifeste dans un ensemble. comme se manifeste l'amour de nos parents qui nous donnent une caresse, une tendresse, mais leur caresse ne dure pas 48 heures. Il y a une caresse, mais à un moment donné, on sent leur amour dans un regard, on sent leur amour dans une prévenance, on sent leur amour dans un petit morceau de gâteau mis de côté, on sent leur amour dans toutes sortes de choses. Alors l'amour divin, ça ne se sent pas dans des frissons qui durent 365 jours par année. De temps en temps, on a un frisson, on a une tendresse, on a une chaleur, on a quelque chose. C'est plus ressenti. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir en venir à faire cette lecture à la journée longue. Quelque chose qui arrive, puis on sent tout de suite que ça ne vient pas du monde. Ce n'est pas un missile terre-terre. On voit que c'est un missile tertiel qui nous vient à travers quelqu'un, une délicatesse ici. Et on a une question à se poser tout à coup. Il nous arrive une réponse. Qui c'est qui fait ça? Nos amis ne savent pas qu'on avait une question, qu'on avait un besoin, qu'on avait un désir. Ils ne savent pas. Puis ils s'en viennent. Puis ils nous donnent des réponses. Puis ils nous donnent ci, puis ça. Qui c'est qui fait ça? C'est celui qui est tout amour et qui orchestre tout. Et c'est comme ça qu'on finit par expérimenter l'amour de Dieu. Et le meilleur du christianisme, c'est ça. Enfin, je dis que, ben je l'ai dit tout à l'heure, le renouveau va passer par ça. Le renouveau de l'Église va passer par le renouveau communautaire. Ça fait choc parce que je vous avoue franchement que notre éducation ne nous a pas toujours poussé à ça. On nous a bien appris à partager nos biens quand on était petit. Partage ta chambre, partage tes jouets, partage tes disques, partage tes objets, partage tes idées. On a appris à partager notre savoir, notre avoir, notre pouvoir. Mais on n'a pas suffisamment appris à partager notre être. Qu'est-ce qu'on est? Même parfois, quand on voulait aller là pour échanger, puis aller jusqu'à partager le fond de l'être de l'autre avec le nôtre, on nous disait, ben non, non, mêlez-vous pas de ce qui ne vous regarde pas. Ça, c'est l'intimité, ça regarde chacun. Mettez ça dans votre coffre-fort, là, fermez ça, là, puis perdez la combinaison de sécurité, là, oubliez-la. Ça, c'est votre petit trésor. Or, c'est ce petit trésor-là, vous savez, qu'on amène par-delà les lignes dans l'au-delà. Notre savoir, nos jouets, qu'on partage nos biens, ça c'est le périssable. Ça ne traversera pas la frontière. Mais ce qui va traverser la frontière, c'est ce qui est en train de se faire depuis ma conception, depuis mon existence, ce que Dieu est en train de faire de moi dans la partie de mon être non périssable, dans la partie de mon être immortel, il est là mon trésor. Parce que c'est ça qui me prépare à m'en aller vivre dans l'au-delà. Et ça, je n'ai pas le droit d'enfermer ça dans un coffre-fort, même avec l'intention de le protéger. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en train de faire son œuvre en moi, de m'achever, de me parfaire, il me donne des lumières, il me donne des conseils, il me donne des grâces qui ne sont pas uniquement pour moi, mais pour d'autres. Et il en donne à d'autres des grâces, des merveilles, des conseils, des lumières qui ne sont pas uniquement pour eux, mais il y en a des éléments pour moi. Et si ça ne change pas de l'un à l'autre, il y a une perte de capital et de ressourcement divin incroyable. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé dans notre monde d'aujourd'hui cet esprit de petit club. Les gens ont tendance aujourd'hui à s'associer seulement avec des petits groupes qui pensent comme eux, avec des gens qui agissent comme eux, avec des gens qui vivent comme eux, avec des gens qui ont des idées comme eux, avec des gens qui prient à leur manière, avec des gens qui font du ministère à leur manière, avec des théologiens qui ont telle école de théologie. On se subdivise en petits clubs et on se referme en petits clubs. On met tous nos petits coffres-forts dans un grand coffre-fort, une grande voûte de sécurité. Et le Seigneur veut pas ça parce que c'est de l'antichristianisme. Il veut nous faire passer de l'esprit de petit club au grand club de l'esprit. Donc, de nous ouvrir à sa mouvance qui veut mettre en circulation tous les biens qui, non seulement il a créés, mais qu'il est en train d'achever et de parfaire. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être communautaire? Je dis immédiatement qu'être communautaire, c'est pas seulement être ensemble. Je parlais avec quelques religieux dernièrement qui me disaient, moi j'ai passé ma vie dans ma communauté religieuse à être ensemble. J'ai dit, je considère que c'est du communautaire. On était ensemble à la chapelle, on était ensemble au réfectoire, on était ensemble en récréation, on était ensemble en vacances, on était ensemble dans tout. Mais j'ai dit, c'est pas tout de mettre des gens dans un même local. Vous aviez là, sauf le respect que je vous dois, une vie de communauté. Mais aviez-vous une communauté de vie? Ah, il dit non. Chacun son affaire. Alors il dit, j'étais 40 ans ensemble. Puis, hein, on a des couples qui sont ensemble. Ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas. On a des familles qui vivent ensemble à la même adresse, avec le même numéro de téléphone. Ils utilisent la même cuisine. Ils sont plus étrangers que les voisins de l'autre côté de la rue entre eux. C'est sûr. Alors, la notion d'ensemble, c'est juste un minimum extérieur pour se lancer vers le communautaire. Deuxièmement, il ne suffit pas d'être en communication. Il y en a qui vont suivre des sessions. J'ai rien contre les sessions de relations humaines, les dynamiques de groupe. J'en ai fait, puis j'ai enseigné moi aussi dans bien des choses comme ça. Et ils ont appris tout à coup à écouter. Puis à s'exprimer. Deo gratia, l'ensemble est meilleur. Mais ce n'est pas encore du communautaire. C'est un minimum de disposition humaine. Ce n'est pas tout non plus d'être en communion. Parce que si on est ensemble, en communication, et en communion, mais si on est en communion sur un champ limité, on communie seulement entre nous dans le domaine de l'apostolat. On se parle, on échange, on fait des plans de pastoral, des plans de mouvement, ça, c'est une communion apostolique qui est seulement une fraction de la communion que le Seigneur nous demande. Si je partage avec des gens sur la Bible, on arrive à une communion exégétique, biblique, évangélique. Donc, une communion sur la parole de Dieu. C'est bien, mais c'est une fraction de tout. Et alors, on a besoin de s'élever par-delà l'ensemble, la communication et la communion au vrai, de vrai communautaire chrétien tel que le Seigneur nous l'enseigne. Et alors, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez dans le petit dépliant, la définition, mais je vais la redonner lentement et la commenter. Un vrai, de vrai communautaire, c'est celui ou celle qui acquiert la volonté. Donc, il faut dire, oui, je veux le devenir communautaire chrétien. Il n'y a rien qui va tomber en place si je ne dis pas oui, si je ne manifeste pas la volonté de l'apprendre. Deuxièmement, la volonté et l'aptitude Or, l'aptitude, on l'a peut-être de façon enfouie, mais il faut faire un effort pour s'en rendre conscient. Donc, la volonté, l'aptitude et l'habitude de partager avec tous ses frères et sœurs. Donc, pas seulement communautaire au foyer, ou communautaire dans ma communauté religieuse, ou communautaire dans mon comité de soutien, ou dans mon œuvre, communautaire de partager avec tous ses frères, croyants, non-croyants, tous ceux dont, avec qui, que je rencontre dans ma vie. Il faut devenir un communautaire avec tout le monde. Partager de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc, un partage qui ne se conjugue pas au passé ou au futur. Il y a des gens qui vont vous partager leur vie, mais le vécu conjugué au participe passé, ou bien leur vécu anticipé pour l'avenir, mais vous ne savez rien de ce qu'ils vivent ces jours-ci, puis ces années-ci, ou ces semaines-ci. Non. Donc, le partager de mieux en mieux au fur et à mesure, aller-retour. Il y a des gens qui ont un charisme de vous raconter ce qu'ils vivent, mais ils ne sont pas du tout intéressés à savoir ce que les autres vivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se racontent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients que ce qu'ils ont à donner est une nourriture pour les autres, et ce que les autres ont à leur donner est une nourriture pour eux. Alors, dans une rencontre à deux, il faudrait temps égal. Moi, je te donne, je mets mes petits pains à ta disposition, et toi, mon ami, fais-moi l'honneur de sortir tes petits pains, puis on va les mettre là, puis on va demander au Seigneur de faire la multiplication des petits pains, et puis on va sortir tous les deux infiniment plus riches que quand on s'est rencontrés. Donc, aller-retour, le chrétien, c'est un aller-retour, puisqu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, les autres, les uns, dans les deux sens. Bon, apprendre à partager, et ça, c'est l'élément important, partager ce qu'il est et devient spirituellement. Pas ce qu'il devient professionnellement, pas ce qu'il devient psychologiquement, pas ce qu'il devient physiquement, mais partager ce qu'il devient spirituellement, dans la vie. Grâce à quoi? Pas à ses idées, pas à ses connaissances, pas aux sessions, pas aux cassettes. Ce qui devient grâce à l'amour de Dieu, à l'œuvre en lui, autour de lui et à travers lui. Et je vous assure que quand ça s'est rentré à demeure dans notre vie, on sait pourquoi Jésus nous a baptisés, pourquoi on a été confirmés. Un chrétien, c'est ça. C'est quelqu'un qui est conscient de ce que l'amour trinitaire qui entre en lui fait, œuvre en lui, et qui garde pas ça pour lui, puis qu'il le sort, pour que ça continue à œuvrer autour de lui et à travers lui dans le monde. Et là, si tous les chrétiens savaient ça, je vous assure que les gens ne diraient pas que ça donne d'être chrétien. C'est moche d'être chrétien. Il n'y a rien là. Tout est là. Il n'y a pas un chrétien qui sera en chômage, puis il n'y a pas un chrétien qui se demanderait qu'est-ce qu'il fait à l'église royale. C'est ça d'abord qu'il faut comprendre, parce que c'est élémentaire. Je ne peux pas partager avec les autres si je n'en suis pas conscient. Et quand on parlera tout à l'heure des moyens à prendre pour le devenir, vous verrez que la partie qui est la plus difficile, c'est d'apprendre à partager. Quand on dit aux gens, ben, partagez votre vécu spirituel dans la foi, j'arrive à une petite rencontre, mais qu'est-ce que je vais partager? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis on s'aperçoit qu'on n'observe pas, qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe dans sa vie. Puis que là, on n'a rien à dire. Mais il y a un petit groupe qui ne nous tombera pas dessus. Il y a un petit groupe qui ne nous culpabilisera pas parce qu'on n'a rien dit. Qui dira, ben, prends ton temps, il faut que tu commences d'abord par ta personne. À une autre rencontre, s'il vient quelque chose, tout ça. Bon. C'est comme ça qu'on apprend dans un milieu ambiant qui nous aime assez pour nous laisser apprendre ça. Ça, c'est très, très important. N'entendez pas. Est-ce que c'est pareil de ce côté-là? Est-ce que c'est un peu mieux? On va continuer dans le mieux. Je mentionne immédiatement que le communautaire, en plus de nous faire expérimenter nous-mêmes le meilleur du christianisme, est-ce trop fort? Non? En plus de ça, une autre des grandes qualités du communautaire, c'est que ça nous transforme en outre neuve et ça nous conserve outre neuve, donc capable de recevoir du vin nouveau que le Seigneur veut nous donner. Vous savez, une outre neuve, c'est pas seulement, ça vient pas simplement à le vouloir. C'est le Seigneur qui change notre fond de notre être d'une vieille outre à une outre neuve. Et pour pouvoir vraiment accueillir tout ce que le Seigneur nous donne et va continuer à nous donner d'ici la fin de nos jours et veut nous offrir pendant l'éternité, il faut vraiment recevoir une outre neuve. Et quand on est communautaire, c'est la meilleure manière de devenir outre neuve et ça entretient la santé, je dirais, de cette outre neuve. Un autre bienfait à longue portée du communautaire, c'est que parce qu'on doit partager, on commence à observer ce qui se passe, comme j'ai dit tantôt. Donc, on apprend à se rendre compte de ce qui se passe en nous, pour pouvoir en rendre compte aux autres avec qui on partage et nous préparer à en rendre compte au Seigneur Dieu à la fin de nos jours et au changement de décor entre la terre et le ciel. On n'aura pas, en arrivant à l'autre côté, à rendre compte uniquement de ses manquements. Pour moi, ça va aller très vite. Mais on aura à rendre compte de tout ce qui nous a été offert, de toutes les grâces qui ont été déversées et non accueillies, ou accueillies et bloquées, non utilisées. Non pas pour nous blâmer, mais quand on va arriver là-haut, puis on va se dire, Seigneur, j'arrive, j'ai les mains vides. Je pense bien que le Seigneur va se permettre une petite minute d'interview en disant, t'as les mains vides, mais pourtant je les ai remplies. Tu te sens le cœur vide, mais pourtant je te l'ai alimenté jour après jour. Pour mon expérience de Dieu, veux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu en as fait? Donc, il faut qu'on s'habitue à se rendre compte, à rendre compte avec des gens qui nous aiment. Ce n'est pas une question de faire des rapports en trois copies, mais c'est de, et ce n'est pas une comptabilité non plus, mais c'est de se rendre compte comme on est chanceux, comme on est gâté. Et c'est incroyable de voir les gens qui traversent les années sur la terre. C'est sûr qu'il y a des malheurs, puis il y a des difficultés, on en voit, c'est criant, c'est révoltant, et tout ça. Mais tout n'est pas à l'envers. Tout n'est pas vide. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, qu'on est blessé par l'amour. Mais c'est vrai que l'amour existe, puis qu'il nous est affaire. Faut s'équiper pour aller chercher tout ça. Et faut pas, je dirais, faut apprendre à le faire de son vivant. S'il y a moyen, c'est encore plus agréable. Bon. Comment pouvons-nous devenir de vrais communautaires? Eh bien, je vous le dis très franchement, ça ne s'apprend pas dans les cassettes, ça ne s'apprend pas dans les volumes, ça ne s'apprend pas dans les sessions, ça s'apprend dans l'expérimentation. Vous pourrez lire toutes les plus belles choses au monde sur le communautaire, ça va vous édifier, vous emballer, mais il faut se laisser devenir communautaire chrétien, et ça s'apprend en le vivant. Je vais partager avec vous cet après-midi, dans cette deuxième partie, le fruit de notre expérience. Ce n'est pas une théorie, c'est du partage de notre vécu qu'on a partagé avec d'autres et que d'autres pourraient venir en file indienne ici, vous le partagez. Ça a fait des petits miracles dans les vies de ceux qui ont respecté ces lois du jeu communautaire chrétien que nous n'avons pas fabriqué, que nous n'avons pas décidé de pondre, mais que le Seigneur nous a enseigné suite à cette demande d'Isabelle Gauvin. Il nous a enseigné que pour devenir communautaire chrétien, il faut mettre ensemble 6 ingrédients. Il nous les a enseignés, je n'ai pas encore compris pourquoi il avait suivi un ordre plus qu'un autre, mais il nous connaissait. Alors, probablement qu'il voulait procéder en enseignant ceci ou cela. Mais quand l'enseignement était fini, on a vu qu'il y avait 6 choses et que si on vivait ces 6 ingrédients, ça produisait une chimie spéciale, une chimie spirituelle spéciale, et on était devenu communautaire chrétien. Et je dirais que si on fait l'effort pour garder ça, entretenir ça, c'est indélébile, en ce sens que ça va en augmentant. Et une fois qu'on est devenu communautaire chrétien, on n'a pas le goût de retourner en arrière. Quand tout cela était fini, qu'on l'a expérimenté et qu'on a eu la permission de le partager, comme je vais faire cet après-midi, on a pris les 6 ingrédients, puis en observant les mots, on les a regroupés pour un moyen mnémotechnique, pour nous aider à les retenir, sous les lettres, les 6 lettres du mot « frappe ». Bref. Dire que c'est un communautaire chrétien de frappe. Le premier ingrédient, c'est F, la foi partagée. Alors, je vais rapidement les énumérer pour ceux qui prennent des notes. Foi partagée. R, ressourcement continu. A, amour fraternel et amour divin, accueilli et partagé, amour. P, prière. L'autre P, pardon. Et le E, à la fin du mot frappe, entraide. Donc, les éléments que le Seigneur nous a enseignés dans ce qu'on a appelé son vin nouveau, pour tout de suite,